Eh bien, nous allons prier pour remettre ces moments au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'être là. C'est un privilège, parce que en étant là, nous témoignons que nous avons reçu le pardon de nos péchés par le sang de Jésus sur la croix, qui nous a donné une vie nouvelle, et que cette vie, nous voulons te la confier, ce soir en particulier pour nous instruire, pour nous montrer le chemin à suivre pour te plaire. Nous te remercions en son nom. Amen. Alors, on va ouvrir notre Bible dans la Genèse, le livre de la Genèse au premier chapitre, et on va lire les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et au verset 31, il nous est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc la création, Dieu lui-même l'a trouvée très bonne, arrivée à l'homme. Avant, c'était bon. C'est quelque chose d'extraordinaire, tout est bien, parce que on a une image extérieure et puis une image intérieure de l'homme où les pensées étaient en communion avec celles de Dieu, dans une harmonie parfaite de la joie, de la paix. Mais dans cette communion, il y avait un point qui devait marquer l'obéissance à Dieu. Et ça, c'est dans Genèse 2, les versets 15 à 17. Donc Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc on a ce point qui n'était pas difficile à obéir. Il suffisait d'obéir à la parole de Dieu, parce qu'il voulait ce point de façon à ce que l'homme soit toujours forcément sous sa bénédiction et son autorité. Il avait choisi ce point. Et puis, donc, dans Genèse 3, on arrive au chapitre suivant et on lira les versets 1 à 6. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Au départ de cette arrivée du serpent, du diable, de Satan, alors, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? On connaît bien ces paroles. Vous ne mangerez pas tous les arbres. Mais là, la femme est très claire. Dans sa première réponse, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres au jardin, mais quant au fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Donc c'est clair. Et elle répond au serpent de ce que Dieu a dit. Elle est dans la parfaite obéissance et soumission à Dieu. Mais on sait que le diable est un menteur. Et il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et il va attaquer ce point faible, on va dire, être comme Dieu. Il va amener ce point où lui-même avait chuté dans sa désobéissance à Dieu. Et il se passe que la femme entend cette voix qui l'amène à cette entrée dans cette convoitise. Et sa réponse est toute différente au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle peut voir qu'il est agréable à la vue, mais on ne peut pas voir que l'arbre est bon à manger. Donc il y avait cette convoitise que le diable a réussi à instaurer dans le cœur d'Ève, et il dit « alors vous serez comme Dieu ». Et cette fois, eh bien, la chute arrive. La chute est désastreuse, mais pour Dieu, elle est obligatoire. C'est non pas le fait de manger d'un fruit ou d'un autre fruit, mais c'est surtout dans ce fait que son cœur s'était offert entièrement au diable. C'est ça la catastrophe. Parce que le diable est rusé, il est menteur, il est séducteur, et il a réussi à mettre d'abord le doute dans le cœur d'Ève, et puis il a avancé plus loin en l'amenant à cette convoitise d'être comme Dieu, et la femme a péché, et à ce moment-là, la perdition est arrivée. Et ce qui s'est passé pour nos premiers parents, évidemment, c'est la base aussi pour nous maintenant, qui sommes la descendance de tous nos péchés. Et il y a une conséquence majeure qui est arrivée après cette séparation d'Ève et d'Adam, c'est que, Genèse 3, 23, l'Éternel chasse l'homme du jardin d'Éden. Et à ce moment-là seulement, l'homme n'est plus sous la direction de l'Éternel et il va dériver dans le péché complètement. On va prendre dans Ésaïe 53, Ésaïe 53, verset 6. Et il nous est dit ici, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » L'homme qui était si heureux, dans la paix, dans la joie, sous l'autorité de Dieu, sous l'amour de Dieu, mais avec une interdiction, eh bien l'homme s'est terminé. Il n'a plus personne pour le gouverner parce qu'il est passé sous la détermination de Satan. Et c'est lui qui va diriger. Et l'homme va devenir, cette phrase qui est très importante dans la parole de Dieu, « Nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. » Il n'y a plus rien pour diriger l'esprit de l'homme, mais aussi pour diriger son cœur. Et plusieurs passages dans la parole nous le disent. Je vous les cite simplement dans Juges 17:6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Il n'y avait pas de roi dans le pays, mais parce qu'il n'y avait plus de roi dans le cœur de l'homme, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est répété dans Juges 21, exactement la même chose. Et le Seigneur insiste sur cette phrase pour nous montrer que cette décision de faire pour l'homme ce qui lui semble bon, à lui ça lui semble bon, et ce sera bien sûr pour nous la même chose, puisque c'est pour nous ce soir. Lorsque quelque chose nous semble bon, eh bien il faut savoir que derrière, il y a toujours l'ennemi qui rôde pour nous inviter et nous faire insister sur le fait d'aller dans cette dérive, que ce soit nos pensées qui vont se réaliser, mais derrière, le malin nous emmène toujours loin de Dieu qui voudrait diriger nos vies. Et tout ceci va amener à mettre à la place du cœur de l'homme qui avait ses pensées si belles, si nobles et si pures, eh bien, va arriver à mettre un autre cœur qui est complètement différent, le cœur mauvais dont nous parle la Bible. Et c'est ce qui va en résulter dans cette dérive, et on prend dans Romains 3, à partir de cette chute et de cette rébellion, et de ce fait que nos premiers parents ont été chassés du paradis terrestre, dans Romains 3, bien sûr ces versets nous les connaissons très bien, mais la Bible est là pour nous rappeler aussi toutes ces choses, afin de nous instruire bien sûr et de nous mettre en garde. Romains 3, versets 9 à 18. « Quoi donc, sommes-nous plus excellents, nullement ? Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre couvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspis, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Voilà les conséquences terribles de la chute. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Dieu n'est plus dans le cœur de l'homme pour le diriger, pour l'aimer, pour l'aider et le faire vivre dans la joie. tout a été une descente absolument terrible, où le diable a pu mettre tous ses sentiments dans nos cœurs à nous. Il est bon quelquefois de revoir l'histoire. Pourquoi se sont passées toutes ces choses? Et donc cette fameuse phrase est d'ailleurs redite dans Deutéronome 12:8, « Vous n'agirez donc pas comme le faisait aussi, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Je n'avais pas remarqué encore jusqu'à maintenant si cette phrase « faire ce qui nous semble bon ». Et quand on regarde tout le déroulement depuis la chute dans toute la Bible, c'est cette voie-là que le diable veut nous faire prendre. Ce qui nous semble bon, c'est assez logique puisque ça nous semble bon. Nous sommes des gens intelligents, nous savons réfléchir, parce que ce qui nous semble bon n'est pas forcément attractif, ou ça l'est, mais ça nous amène par nos pensées, par notre logique, et à prendre des décisions raisonnables. Ce qui est raisonnable, c'est aussi ce qui nous semble bon. Mais dans tout cela, Dieu n'existe pas. Nous ne faisons pas référence au Seigneur. Et cette voie qui fait appel à l'intelligence, eh bien, elle se développe encore plus dans le monde actuel, puisque Satan envahit le monde. Et on sait que la véritable foi en Christ va s'écrouler, parce que le diable va demander à l'homme de faire ce que la majorité semble bon, dans tous les domaines, pour amener à cette pensée unique qui se généralise maintenant par la mondialisation. On en revient exactement au même terme que lors de la chute. Faire ce qui nous semble bon. Et tout ceci fait partie de notre vie. Et nous ne pouvons plus, après la chute, avec le cœur qui s'est dégradé par le péché, eh bien, nous ne pouvons pas nous en sortir de cela. C'est impossible. Nous marchons dans ces pensées. Et l'apôtre Paul l'a bien essayé. Mais dans Romains 7, on va voir comment il nous l'écrit, puisque nous le savons bien sûr. Dans Romains 7, l'apôtre Paul, qui a tout essayé pour marcher avec droiture, eh bien, voici ce qu'il dit, on le connaît, Romains 7, hein, verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon ma intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Toujours enclin à faire, moi, l'homme, ce que je veux, moi, ce que je désire, moi, en dehors de la volonté de Dieu. Et ceci est un esclavage. Et l'homme ne peut pas s'en défaire, mais grâce soit rendue à Dieu, qui est venu pour lever cet interdit, et qui, sur la croix, nous a rendu la liberté de ne plus faire ce qui nous semble bon, mais de pouvoir nous remettre sous l'autorité de Dieu par l'autorité du Saint-Esprit. Et nous voyons combien, à ce moment-là, il faut que nous puissions aussi, pour nous remettre cette autorité sous l'autorité de Jésus et du Père par le Saint-Esprit, voir aussi ce que demande le Seigneur Jésus afin que nous revenions dans cette route où ce n'est plus ce que nous désirons, mais plus nos pensées, mais sous l'autorité de ses pensées à lui. C'est ce qui fait notre quotidien. Eh bien, on lira dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, donc on repart dans Ésaïe, au chapitre 55. On lira les versets 8 et 9 que nous connaissons bien également. Ésaïe 55, au verset 8. Au verset 7 plutôt. Commençons par le verset 7. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, toutes nos pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. même si elle nous semble bonne. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà ce qui nous éclaire. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nos voix ne sont pas celles de Dieu. Et quand il nous est dit que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, toutes nos pensées, elles ne sont aucune n'est de Dieu. Ah, le chemin s'éclaire. Et il nous est dit aussi dans Éphésiens au chapitre 4, on va revenir dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, on lira versets 17 et 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire qu'elles sont vaines. Pas forcément mauvaises au départ, mais elles sont vaines parce qu'elles sont les nôtres. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et on continuera un peu plus loin, au verset 21, au verset 20, enfin à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Voilà, le Seigneur nous engage ici, nous montre la réalité de ce monde intérieur de nos pensées qui dirige tout dans nos vies, tout part de nos pensées, mais qui est par derrière toujours gouverné par l'ennemi qui est secret, qui est caché, mais qui est là, pour nous séparer des pensées de Dieu et des voies de Dieu. Et puis, dans la deuxième aux Corinthiens, la voie nous est encore montrée, 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et ces forteresses, ce sont nos pensées. Ce sont le faire ce qui nous semble bon. Et le verset 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est profond tout ça. En le relisant, j'ai en nouveau réfléchi toute pensée. C'est-à-dire que toutes nos pensées, il faut les amener captive à l'obéissance de Christ, les soumettre au Seigneur, lui demander qu'il mette les siennes à la place des nôtres, pour ne pas nous tromper, pour ne pas que l'ennemi nous emmène dans des chemins mauvais. Tous les choix de notre vie personnelle, de notre vie spirituelle, doivent être amenés captives à l'obéissance de Christ. Mais quel soulagement, quel réconfort et quelle sécurité si nous connaissons cela, nous le connaissons, mais si nous renouvelons encore ce soir cette chose de dire maintenant, Seigneur, voilà, dans tel moment, dans tel endroit, mes pensées, dans telle circonstance, mes pensées, elles peuvent être faciles ou très difficiles. Seigneur, je viens, je t'amène mes pensées à toi. Dirige mes pensées, montre-moi. Et le Seigneur ne manquera pas de le faire, il honorera notre foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre a eu la même révélation. On va prendre dans le premier chapitre, première épître de Pierre, au chapitre 2, on lira les versets 24 à 25. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous ne sommes plus des brebis errantes, mais nous sommes sous l'autorité du divin berger. Alors nous sommes des brebis en sécurité, en lui confiant toutes nos pensées, comme nous l'avons dit. Et dans notre vie de chrétien à ce moment-là, eh bien, le Seigneur nous amène à découvrir un autre but lorsque nous lui confions nos pensées, donc toute notre vie. Il nous le dit dans 2e aux Corinthiens, au chapitre 5. 2e aux Corinthiens, chapitre 5. On lira les versets 14 et 15. Maintenant que nous sommes retournés vers lui, dans cette position où nous lui confions nos pensées, nos chemins, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et le chemin de notre vie, alors, c'est clair, c'est pour lui, c'est pour le plan qu'il a pour chacun de nous, dans ses pensées à lui. Et ses pensées sont toujours les meilleures. Tout ce qu'il fera, même les épreuves, Jacques nous le dit, et Pierre nous le dit aussi, sont dans ses pensées d'amour pour nous amener plus loin avec lui. Et ça s'appelle le chemin étroit, dans la parole de Dieu. Parce que c'est un chemin que nous ne choisirions pas selon ce qui nous semble bon. On est à l'inverse. Mais c'est ce qui semble bon au Seigneur. Et ce chemin étroit, il est étroit, il est souvent douloureux, mais c'est le chemin de la bénédiction pour chacun de nous, si nous voulons le suivre. Et de nos jours, bien, l'ennemi agit de la même façon qu'il a agi avec Ève, on le sait dans nos vies, et même du temps de Paul, qui était un grand apôtre, il a dû vivre quelque chose avec ceux qui étaient ses plus proches collaborateurs. On va prendre dans Philippiens 2. Philippiens 2, on va lire ceci, ces deux versets quand même fort impressionnants, versets 20 et 21. Philippiens 2, 20 et 21. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Ces sentiments, c'est-à-dire l'œuvre pour Christ, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Il n'y avait plus aucun qui pouvait soutenir l'apôtre Paul et être ses collaborateurs, tellement le diable avait su une œuvre dans leur cœur de séduction. Et ils s'étaient écartés de lui pour vivre leur convoitise mondaine. Il n'y en a pas d'autre de toute façon. Ainsi, ils devenaient totalement inefficaces puisqu'ils ne pouvaient plus prendre à cœur la situation de ceux avec qui ils étaient. Et le diable n'a pas changé. Il avait enlevé tous les collaborateurs de Paul parce que c'était un instrument important. Alors, j'ai aussi pensé à partager avec vous que nous devons veiller sur nos voies, veiller sur nos vies, pour ne pas laisser le séducteur nous emmener loin du Seigneur par ses convoitises, par le fait qu'il veut nous glorifier, il veut glorifier l'homme en étant l'homme qui est moderne, l'homme qui a ses pensées, qui dirige sa vie dans tous les domaines. Et cela nous écarte du Seigneur. Au contraire, eh bien, gardons bien toutes nos pensées, toute notre vie, à la soumission des pensées du Seigneur. Ça veut dire prenons du temps. Et moi, je parle pour moi le premier, là. Prenons du temps chaque jour pour être vers le Seigneur, dans la parole. Et comme disait Samuel, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Quelqu'un avait traduit, mais vous le savez aussi, « Écoute, Seigneur, car ton serviteur parle. » Ça ne marche pas trop. Mais il est bon de dire « Parle !» Donc parle-moi dans ta parole, Seigneur. J'écoute, montre-moi tes pensées. Et dans le temps de prière que nous prenons aussi. Voilà, c'est simplement un encouragement pour nous tous à continuer la voie dans les pensées du Seigneur.